Perle Fosse par Henry James. J'ai découvert encore des masses de choses, dit Arthur Prime à sa cousine le lendemain du second enterrement. Elles sont là-haut, dans la chambre de ma belle-mère. Je tiens à ce que vous y jetiez un regard. Tous deux, en grand deuil, l'air suffisamment affligé, se trouvaient dans le jardin du presbytère attendant le second déjeuner. On lisait sur le visage d'Arthur, comme l'avait involontairement remarqué sa cousine, l'intention de paraître émue plutôt qu'une réelle émotion. Sincère ou factice, cette émotion n'était que trop naturelle, moins d'une semaine après le décès de sa belle-mère, moins de trois après celui de son père. Mais la jeune fille, nature fine et sensible, s'étonnait surtout de le trouver absorbé dans son deuil sans chagrin apparent et courbé sous l'épreuve sans ressentir ce que personnellement elle eût appelé de la souffrance. Le jeune homme avait tourné les talons. C'était assez son habitude quand il parlait à sa cousine de laisser tomber une observation sans l'aider à la ramasser. Si la veuve du pasteur, transportée maintenant à sa dernière demeure, n'avait pas réellement tenu de place dans la vie de son beau-fils, ce n'était certes pas faute de lui avoir montré du dévouement, autant du moins qu'il l'avait accepté. Cependant, sa dépouille mortelle était restée pendant 3 jours, abandonnée dans la grande chambre au bout du corridor, chambre froide, verdâtre et humide, où on logeait les invités. Les dames de la paroisse avaient pieusement offert de la veiller, soit deux à deux, soit à tour de rôle, mais sans succès. Les rapports d'Arthur Prime avec la paroisse étaient maintenant plus rares que jamais, et il n'avait pas attendu cette occasion pour faire voir à ces dames ce qu'il pensait d'elles. Sa cousine elle-même, pendant le lugubre mois passé loin de Blyth où elle était institutrice, s'était sentie en butte aux mêmes humiliations. Malgré cela, lorsqu'un instant après, elle se fut décidée à monter regarder les choses dont son cousin lui avait parlé, elle ne put s'empêcher de caresser vaguement l'espoir d'avoir hérité de quelques reliques, quelques souvenirs. En ouvrant la porte, elle aperçut, épars sur la table, une masse d'objets brillants, chatoyant dans la pénombre. Elle ne les avait jamais vus, et cependant, dès le premier coup d'œil, elle reconnut des accessoires de théâtre, objets beaucoup trop somptueux pour avoir jamais appartenu au presbytère. Leur magnificence même suffisait à en dénoncer la fausseté. Madame Prime n'avait pour ainsi dire jamais possédé de bijoux, et il y avait là des diadèmes et des ceintures, des diamants, des rubis, des saphirs. Clinquants et verroteries sans doute, et d'aspect singulièrement vulgaire, cependant, surmontant cette première impression désagréable, Charlotte se mit à les manier pour y trouver la confirmation d'un souvenir lointain et à demi effacé qu'il réveillait subitement en elle. Un honnête pasteur, amateur aussi passionné qu'érudit du théâtre de Shakespeare et libre de tout préjugé, resté veuf avec un petit garçon, avait conçu pour une actrice obscure, beaucoup plus âgée que lui, une admiration, dans quel abîme n'était-il pas tombé, qu'il avait eu la naïveté de lui témoigner en lui offrant son nom vénéré et sa main pastorale. Elle avait accepté, et ce consentement parut à cette époque lointaine encore plus bizarre peut-être que la proposition elle-même. Charlotte, à force de retourner l'histoire dans sa tête, s'était fait une idée à elle de cette comédienne médiocre, tragédienne à 16 heures sans doute, et peut-être même au besoin actrice de féerie, qui avait hanté les rêves de son oncle. Sa carrière n'avait guère été brillante, encore moins heureuse. Vous le voyez, ce sont de vieux oripeaux, restes d'un temps dont ma mère n'aimait pas à parler. Charlotte tressaillit. Son cousin l'avait rejointe, après tout, et il venait sans doute d'épier sur son visage l'étrange impression qu'elle avait reçue. « C'est ce que je me disais, » répondit-elle. Puis, voulant montrer qu'elle s'y connaissait, sans cependant risquer de dire une sottise, elle ajouta « Comme ils ont l'air singuliers. »« Ils ont l'air horribles, » dit Arthur Prime. « Cuivre doré, diamants gros comme des pommes de terre, ornements d'une époque plus grossière que la nôtre. » Les acteurs s'habillent mieux maintenant. Oh, maintenant, observa Charlotte d'un air entendu, les actrices ont de vrais diamants. Certaines actrices, rétorqua Arthur d'un ton sec. Je veux parler de celles qui sont légères, des nullités aussi. Oh, parfois ces nullités possèdent les plus gros diamants, mais maman n'en était pas. Une nullité? Hasarda Charlotte. Pas une nullité à qui quelqu'un, bref, pas une nullité possédant des diamants. Toute cette camelote ne vaut pas 5 livres. Ces vieux colifichets avaient pour Charlotte un attrait évident, il continuait à les examiner en détail. « Ce sont des reliques, » dit-elle. « Elles ont quelque chose de mélancolique et même une certaine dignité. » Arthur resta un instant silencieux. « Y tenez-vous, je veux dire, comme souvenir ?» ajouta-t-il avec empressement. « De vous ?»«
De moi ? Qu'ai-je à faire de tout cela ?»«
Non, comme souvenir de votre pauvre tante défunte, toujours si bonne pour vous. » continua-t-il d'un ton de vertueuse sévérité.
« Au fait, autant ces bijoux que rien du tout. »«
Alors prenez-les, je vous en prie, » répliqua-t-il d'un air soulagé, avec plus d'empressement que de bonne grâce. « Merci. » Charlotte souleva deux ou trois objets et les remit en place. Bien que trop légers pour être authentiques, ces joyaux lui paraissaient d'une somptuosité si extravagante qu'elle eût préféré même une boîte d'allumettes ou un essuie-plume à cet héritage encombrant. Ce n'était en effet que d'impudentes imitations en toc.
« Vous doutiez-vous qu'elle lui gardait ses bijoux ?»«
Je ne crois pas du tout qu'elle les ait gardés exprès, ni qu'elle sût où ils étaient. En tout cas, je suis certain que mon père l'ignorait. Mes parents s'étaient complètement détachés du monde théâtral et ce bric-à-brac que ma belle-mère s'imaginait avoir donné ou détruit avait été simplement jeté dans un coin obscur et oublié.
« Où avez-vous trouvé ces bijoux ?» demanda-t-elle avec curiosité.
« Dans cette vieille boîte de fer blanc. » Et le jeune homme désigna du doigt un réceptacle placé sur un siège voisin. « Cette boîte est encore en assez bon état, mais je le regrette de ne pouvoir vous la donner. » La jeune fille ne la regarda même pas. Elle n'était occupée que des colifichets. « Quel coin avait-elle donc trouvé pour les mettre ?»«
Elle n'avait pas trouvé un coin, » insista son interlocuteur d'un ton sec. « Elle avait simplement égaré la boîte et n'y pensait plus. »
On l'avait placée sur l'étagère la plus élevée dans l'armoire de l'ancienne chambre d'études. Vu d'en bas, cette étagère paraissait absolument vide. Pour y voir quelque chose, il faut monter sur une échelle et fourrer la tête dans l'armoire, car la porte est étroite et la partie de gauche se perd dans le mur. La boîte est restée là pendant des années.
Charlotte se sentait partagée, troublée, et elle se remit à manier ses objets découverts d'une façon si inattendue.
Un grand bracelet en forme de serpent doré aux multiples replis et aux yeux de verroterie, une ceinture de métal sertie d'émeraude et de rubis, et une chaîne de style flamboyant à laquelle la mère d'Hamlet, au théâtre royal de Little Peddlington, avait probablement eu soin d'attacher le portrait de son second mari.
Êtes-vous sûr que ces bijoux n'ont pas quelque valeur? Leur poids seul, murmura-t-elle indistinctement, en balançant un instant un diadème royal qui aurait pu servir à couronner une des figures de cire de la fameuse Madame Jarley.
Évidemment, Arthur Prime avait déjà examiné à fond la question et trouvé sans peine une réponse.
Si ces bijoux avaient eu la moindre valeur, il y a beau temps que ma belle-mère les aurait vendus. Mon père et elle n'étaient malheureusement pas en position de garder sous clé des objets de grand prix.
Sa cousine reconnut la force évidente de cette objection. Du reste, ajouta-t-il en appuyant juste assez pour éveiller son attention, si ces bijoux ont la moindre valeur, ils n'en sont que plus à votre disposition. Charlotte venait de prendre un petit sac fané en soie brochée, un de ces antiques ridicules, dont la vague odeur de camphre et de lavande éventée nous parle du rôle qu'ils ont joué dans quelques romans intimes. Bien qu'elle en desserrât les cordons pour la première fois, son regard se portait sur le jeune homme plutôt que sur le trésor problématique que le sac semblait contenir.
« Je suis bien aise de les avoir, c'est tout ce que j'ai, tout ce que vous avez, qui est appartenu à ma tante. »
Il gonfla les joues et jeta un regard autour de lui comme pour prendre la chambre si pauvrement meublée à témoin de l'avidité de sa cousine.
« Eh bien, que voulez-vous d'autre ?»«
Rien, merci bien. » En disant ces mots, elle baissa les yeux sur l'objet qu'elle avait sorti du petit sac suranné, un collier de grosses perles, qui avait dû autrefois orner le cou de quelque Ophélia de province à la perruque de Phylas.
« Ceci a peut-être quelque valeur. Voyez-vous-même. »
Et elle lui passa le collier après en avoir évalué le poids dans sa main. Il le soupesa à son tour et dit d'un ton indifférent
« Il vaut tout au plus 30 shillings, pas davantage.
Certainement non, si les perles sont fausses.
Mais sont-elles fausses ?»
Il eut un petit reniflement d'impatience.
« Des perles presque aussi grosses que des abelines.
Mais elles sont lourdes, » déclara Charlotte.
« Pas plus lourdes que toute autre chose. »
Et il les lui rendit en ajoutant par égard pour sa naïveté « Pouvez-vous admettre un seul instant qu'elles soient vraies ?» Elle les examina quelques secondes, les tâtant, les retournant de tous côtés. « Est-il impossible qu'elles le soient ?
des perles de cette grosseur, mises au rebut avec cette camelote. J'admets que ce n'est pas vraisemblable, reconnut Charlotte, et les perles s'imitent si facilement. C'est justement pourquoi, aux yeux d'un connaisseur, celles-ci ne sont pas authentiques. Elles n'ont aucun éclat, aucun orient. C'est vrai, elles sont ternes, opaques. D'ailleurs, demanda-t-il d'un ton net, comment ma belle-mère aurait-elle jamais pu venir en possession de ces perles? N'a-t-elle pas pu les recevoir en cadeau? Arthur, à ces mots, prit un air effaré, comme si sa cousine s'était permis quelques propos déplacés. Parce que les actrices sont exposées, il s'arrêta court, et avant que Charlotte ait eu le temps de protester par un « non, en effet, ce n'est pas possible », en réponse à sa phrase inachevée, Arthur lui avait tourné le dos et était sorti de la chambre. Devant cette incartade, Charlotte se demanda s'il avait manqué de tact, et le soir même, avant qu'il fût revenu sur ce sujet, elle découvrit le motif de son ressentiment. Ils avaient causé de son départ pour le lendemain matin, de l'heure du train, de la voiture qui devait venir la chercher. Ce fut pour Arthur l'occasion de dire « Vraiment, je ne puis vous laisser quitter la maison sans l'impression qu'à aucun moment de sa vie, ma belle-mère a été une de ces femmes qui permettent qu'on leur offre des colliers de perles ou quelque chose d'approchant. » La manière dont il avait présenté les choses lui rendait impossible de montrer qu'elle comprenait, sans paraître impertinente. Le visage d'Arthur se rembrunit. « Précisément, c'est bien cela. Ce matin, j'ai parlé sans réflexion, mais je vois ce que vous voulez dire. Je veux dire que ma belle-mère était au-dessus de tout reproche. Oui, 100 fois oui. Donc, si avec ses maigres appointements, il lui était impossible de jamais se payer un rang de perles, elle n'aurait pas pu dans ce milieu emporter sans scandale, c'est évident. Je me suis bien rendu compte, continua Charlotte, que ce n'est pas même une très bonne imitation. Le petit fermoir, par exemple, n'a pas l'air d'être en or, ce qui est naturel avec de fausses perles. Le tout n'est que de l'ignoble camelote, répliqua son interlocuteur comme pour en finir. Sinon, s'il est vrai que ma belle-mère l'est cachée à tous les yeux, il s'arrêta. Eh bien, je ne saurais que penser. Ah, je comprends. Elle le regarda d'un air décontenancé, mais Arthur, considérant non sans raison que ce sujet devait être définitivement écarté, la question ne fut pas remise sur le tapis le lendemain matin, lorsqu'après avoir eu quelques peines à les caser dans sa malle, Miss Prime emporta ses chatoyantes reliques. À Bleat, elle n'eut guère l'occasion de les examiner à nouveau. Dans cette atmosphère si différente, elle enfouit ses bijoux sous des piles de vêtements, comme si cette collection n'était pas exempte de ridicule. Aussi ne fut-elle jamais tentée de les montrer pour amuser ses élèves, quoique Gwendolen et Blanche fussent très curieuses à chacun de ses retours de voir ce qu'elle rapportait. Ses bijoux seraient de nouveau restés ensevelis, sans un événement inattendu qui vint changer totalement la face des choses. La cause en fut une maladie soudaine de Lady Bobby, au moment où on l'attendait pour jeter un certain éclat sur les 5 jours de fête qui devaient célébrer la majorité du fils aîné. On adressa alors un appel pressant à une personne toute différente, Madame Guy, qui, si par miracle pouvait l'arracher à ses multiples engagements, apporterait avec elle un élément incontestable de vie et d'entrain. Elle était connue de plusieurs des invités, mais Miss Prime ne l'avait jamais vue. Après un rapide échange de télégrammes, Madame Guy se décida enfin à combler les vœux des hôtes de Bleat, et Charlotte vit arriver une bizarre et charmante petite rousse, tout de noir vêtue, à la figure poupine et au ton de commodore. Immédiatement, elle prit la très jeune et discrète institutrice dans la confidence de ses projets et même de ses craintes, tout en lui laissant entendre que c'était son habitude. « Tout est bien arrangé pour demain et jeudi, » dit-elle d'un ton net à Charlotte dès le second jour, « mais je ne suis qu'à moitié satisfaite de mon programme pour vendredi. Quel perfectionnement suggérez-vous? Entre nous, j'ai un talent particulier pour les tableaux vivants. Ah, charmant. Et quel est votre rôle favori? Impresario, » dit Madame Guy d'un ton décidé. C'est bien en cette qualité qu'elle avait organisé en quelques heures son plan de campagne et recruté sa troupe. Tout ce qu'elle disait allait droit au but. Rien ne le prouve mieux que sa dernière question à Charlotte, après avoir examiné décor et costumes. Peu satisfaite de cet examen, elle lui dit « Ce sera bien terne. Nous aurions besoin d'égayer tout cela. Vous n'avez rien d'autre ?»« Non. » Charlotte eut une idée. « J'aurais bien quelques objets. » « Alors pourquoi ne les apportez-vous pas ? » La jeune fille hésita. « Auriez-vous l'obligeance de venir dans ma chambre ?»«
Non, » répondit Madame Guy.
« Apportez-les ce soir dans la mienne. »
À la fin de la soirée, lorsque la lumière vacillante des bougeoirs eut disparu dans les longs corridors à l'heure de la retraite générale, Charlotte se rendit dans la chambre de son amie chargée des reliques de sa tante. Elle commença par exprimer une crainte. « Ces bijoux ne sont-ils pas trop extravagants ? » dit-elle tout en les versant sur le canapé. D'un bond, Madame Guy fut devant la glace et planta le diadème sur sa tête. « Crânement chic ! Nous pourrions représenter Ivanhoé. Mais ce n'est que du fer blanc et de la verroterie. Je crois bien. Ils sont plus grands que nature. C'est justement ce qu'il nous faut pour nos tableaux vivants. Dans des scènes historiques, nos bijoux, à nous, paraîtraient bien mesquins. Rowena doit avoir des rubis gros comme des œufs. Laissez-moi voir ces objets. Ils m'inspireront. Bonsoir. » Le lendemain matin, elle paraissait singulièrement agitée. « C'est décidé, je jouerai Rowena. Mais il y a une chose, ma chère, que je ne comprends pas. Quoi donc ?» Madame Guy lui jeta un rapide regard. « Comment êtes-vous entrée en possession de ces objets ?» La pauvre Charlotte sourit. « Par héritage. Ce sont des bijoux de famille. Ils appartenaient à ma tante, morte il y a quelques mois. Actrice dans sa jeunesse, mais pendant peu de temps, ces bijoux faisaient partie de ses ornements de théâtre. Elle vous les a légués ?»«
Non. Mon cousin, son beau-fils, qui naturellement ne pouvait en faire usage, me les a donnés en souvenir d'elle. » C'était une chère et douce créature. Elle a toujours été gentille pour moi. Je l'aimais beaucoup. »
Madame Guy l'avait écoutée avec un visible intérêt.
« C'est plutôt votre cousin qui doit être une chère et douce créature. »«
Vous croyez ?» demanda Charlotte, étonnée.
« Est-il lui aussi toujours si gentil pour vous ?»
À ces mots, la jeune fille, seule en face de la brillante visiteuse, dans la salle à manger déserte, chercha à pénétrer plus avant sa pensée. « Que voulez-vous dire ?»
« Ne le savez-vous pas ?»
Une idée traversa l'esprit de Charlotte.
« Ces perles seraient... »
La question expira sur ses lèvres.
« Est-ce que votre cousin l'ignore ?»
Charlotte sentit qu'elle rougissait.
« Elles ne sont pas fausses ? Vous ne les avez donc pas regardées ?»
Miss Prime éprouvait un double embarras.
« Et vous-même ?»
Très attentivement.
« Ils sont vrais ?»
Madame Guy prit un air énigmatique et se contenta de répondre « « Revenez auprès de moi, dans ma chambre, quand vous en aurez fini avec les enfants. » Charlotte, ce matin-là, expédia les leçons avec une promptitude qui étonna et ravit ses élèves. Quand elle se présenta dans la chambre de Madame Guy, cette dernière avait déjà enserré son cou blanc et potelé dans le seul joyau qui put prêter à la discussion parmi toute la collection de feu Madame Prime, ex-Miss Bradshaw, d'indécise mémoire. Si, jusqu'ici, Charlotte n'avait jamais attaché devant un miroir le collier à son cou, c'est qu'elle ne voulait pas s'abaisser à porter de faux bijoux. Mais il lui suffisait de regarder Madame Guy pour voir que, disposée ainsi, ses perles pouvaient passer pour authentiques.
« Au nom du ciel, que leur avez-vous donc fait ?»«
Je les ai tout simplement maniées, appréciées, admirées. Enfin, je les ai mises. C'est justement ce dont les perles ont besoin. Il faut qu'on les porte. Cela les réveille. » « Elles sont vivantes, ne le voyez-vous pas ? Comment celles-ci ont-elles été traitées ? Elles ont dû être enfuies, ignorées, méprisées. Elles étaient à demi-mortes. » Et caressant amoureusement le collier, elle demanda « Ne vous connaissez-vous pas en perles ?
Comment le pourrais-je ? Et vous ?
Je sais tout ce qui les concerne. Celles-ci étaient tout simplement endormies. » Et elle ajouta avec une tendre inflexion de voix « Il m'a suffi de les toucher pour qu'elles charment les yeux. »
Elles font plus que charmer les miens. Et cependant, je me demande...
Les perles d'Arthur, se dit-elle, songeuse. Elle se sentit comme oppressée.
Alors, leur valeur?
Oh, leur valeur est très grande. La jeune fille s'abandonna, muette, à l'émerveillement que lui causait la beauté de ces perles et le mystère qui les entourait.
En êtes-vous sûre?
Sa compagne se tourna vers elle avec impatience. Sûre? « Me prenez-vous pour une imbécile, ma chère ?»«
Oh, pas plus qu'Arthur et moi, » aurait-elle pu répondre.
Mais elle n'osa pas et se contenta de dire « Mon cousin ne se doutait pas de leur valeur et croyait qu'elle n'en avait aucune. »«
À cause des autres objets, sans doute.
Eh bien, votre cousin est un âne. Mais si, comme je l'ai compris, c'est lui qui vous les a donnés, qu'a-t-il à y voir maintenant ?»«
S'il me les a donnés, les croyant sans valeur et qu'elles se trouvent être très précieuses, Vous vous croyez obligé de les rendre ? Je n'en vois pas la nécessité. Il s'est conduit comme un niais. Tant pis pour lui. »
Charlotte ne pouvait détacher les yeux de ces perles vraiment exquises, et qui, pour le moment, lui semblaient bien plus appartenir à Madame Guy qu'à Arthur ou à elle.
Oui, il a persisté dans son erreur même quand je lui fais remarquer que ces perles paraissaient très différentes des autres joyaux.
« Eh bien alors ?» s'écrie Madame Guy, d'un ton qui indiquait plus que du triomphe, on y sentait un vrai soulagement, assez bizarre.
Cette exclamation rendit la jeune fille encore plus songeuse.
« Ah, voyez-vous, Arthur ne pouvait imaginer que ce collier eût plus de valeur que le reste, car dans ce cas, c'est une chose qu'il ne pouvait pas admettre. »«
Pas admettre, je ne comprends pas. » »«
Eh oui, comment aurait-elle pu les acquérir ?» dit naïvement Charlotte.
« Elle, qui ça ?»
Madame Guy avait un talent particulier pour faire rentrer les gens sous terre.
« Eh, la personne dont je vous ai parlé, sa belle-mère, la femme de mon oncle. C'est parmi de vieilles défroques jetées au rebut qu'Arthur a trouvé ses perles. »
L'image de Miss Bradshaw commença à se préciser dans l'esprit de Madame Guy.
« Voulez-vous dire qu'elle les a peut-être volées ?»«
Non, mais elle avait été actrice. »«
Eh bien alors, cela n'explique-t-il pas toute l'affaire ?» s'écria Madame Guy.
« Oui, sauf qu'elle était loin d'être une étoile, et ne recevait pas de gros émoluments. »
La jeune fille risqua même une plaisanterie, soulignée d'un rire nerveux.
« Elle aurait été, je le crains, une pauvre Rowena. »
Madame Guy en conclut.
« Elle était donc très laide ?»«
Non, elle peut, dans sa jeunesse, avoir été jolie. »«
Eh bien alors ?»
s'écria Madame Guy d'une voix éclatante et d'un ton triomphant.
« Vous voulez faire entendre que c'était un présent. C'est justement ce qui fait horreur à mon cousin, l'idée qu'elle aurait reçu un présent d'un admirateur capable d'aller aussi loin.
« Parce qu'elle n'aurait pu l'accepter gratuitement ?»«
Speriamo, qu'elle n'était pas dénuée de sens moral, car son admirateur est allé loin, de toute la longueur d'un collier de perles. Espérons qu'elle n'a été que suffisamment aimable pour lui. »
Ce qui semblerait prouver qu'elle l'a été, c'est le fait que ni son mari, ni son beau-fils, ni moi n'avions aucune idée qu'elle pût posséder un objet aussi précieux. C'est aussi que le reste de sa vie, elle a gardé ce présent caché à tous les yeux dans un coin où il ne pouvait être ni découvert ni soupçonné.
Madame Guy avait la compréhension vive.
Comme si ce collier lui était très cher et que néanmoins elle en avait honte.
Elle se mit à rire tout en maniant les précieuses perles.
A-t-on idée de cela, être honteuse de telles merveilles?
Mais vous comprenez, elle avait épousé un pasteur.
Oui, ce devait être une drôle de personne.
Quoi qu'il en soit, votre oncle l'a épousée.
Que supposait-il donc?
Mais qu'elle n'avait jamais été de ces femmes qui encouragent de pareils présents.
Ah, ma chère, les femmes qui n'encouragent pas.
Madame Guy se reprit.
Et son beau-fils pensait de même?
Lui, je crois bien.
Et quoi qu'il ne fût que son beau-fils, il avait pour elle,
oh oui, toute l'affection que cette confiance indique. Il n'a pour ainsi dire pas connu sa véritable mère.
Et sa belle-mère, sans enfant à elle, s'est montrée très patiente et très bonne avec lui.
Quant à moi, continua la jeune fille, je l'aimais assez pour qu'au bout de 10 ans, il me soit impossible de la trahir d'une si singulière façon.
Cela vous est impossible?
Eh bien, ne le faites pas,
dit Madame Guy avec décision.
Mais si ces perles sont vraies, je ne puis les garder,
dit Charlotte, d'un ton à la fois plaintif et impatient,
sans les quitter des yeux.
C'est trop difficile.
Difficile? En quoi, s'il vous plaît?
Si votre cousin a les sentiments que vous lui attribuez, il doit être prêt à faire le sacrifice du collier, puisque d'admettre sa valeur et la supposition que cela entraîne,
vous n'avez qu'à vous taire.
Et le garder?
Comment pourrais-je jamais le porter?
Vous n'avez qu'à le cacher, comme votre tante.
Madame Guy eut l'air amusée. Vous pouvez facilement le vendre.
Charlotte passa derrière Madame Guy pour juger du collier.
Le fermoir pouvait tromper sur la valeur à dessein, sans doute, mais tout le reste était exquis.
Il faut que je réfléchisse.
Pourquoi ne les a-t-elle pas vendus?
S'écria tout à coup Charlotte, troublée.
Madame Guy répondit vivement. N'est-ce pas une preuve que ce collier était pour elle un souvenir?
Vous n'avez qu'à vous taire,
répéta-t-elle avec feu.
Il faut que je réfléchisse, il le faut.
Madame Guy resta un moment immobile, les mains sur le collier.
Alors, vous voulez les ravoir?
Charlotte recula vers la porte comme si elle craignait de les toucher.
Je vous le dirai ce soir.
Mais puis-je les porter?
En attendant?
Oui, aujourd'hui à dîner.
Devant le ton pressant et impérieux de Madame Guy, Charlotte décida sur le champ ce qu'elle devait faire, mais pour le moment elle se contenta de dire en quittant la chambre, « Comme vous voudrez. » La journée fut occupée presque entièrement par les préparatifs et les répétitions, et ce soir-là, à dîner, les convives se trouvaient si nombreux qu'on ne demanda pas à Miss Prime de prendre place parmi eux. Charlotte était seule dans la salle d'études lorsque la société se leva de table et que vers 11 heures, Madame Guy monta auprès d'elle. Ses blanches épaules, haletantes sous les perles, formaient une heureuse opposition de couleurs avec ses lèvres rouges, qui ne furent pas lentes à exprimer l'émotion du moment. « Ah, ma chère, vous auriez dû voir les faits. Elles ont eu un succès. » Charlotte resta un instant muette. Tout devenait clair pour elle.
« Oui.
C'est comme si elle le savait. Elle se réveille de plus en plus. C'est d'autant plus malheureux pour nous. Je ne peux pas garder le silence, » dit-elle, non sans effort. « Vous voulez les rendre ? Si je ne le fais pas, je suis une voleuse. »
Madame Guy lui lança un long et dur regard. Elle avait habituellement dans les yeux une assurance qui contrastait avec sa figure popine. Elle fit un brusque mouvement de tête, leva ses beaux bras nus, ouvrit le fermoir et, ôtant le collier, le posa sur la table. « Si vous le faites, vous êtes une oie. »
« Soit, mais entre les deux. » Elle prit le collier avec un soupir et, comme pour faire disparaître le plus vite possible cette cause de tourment, elle l'enferma à double tour dans le tiroir de sa petite table. Puis, se retournant vers sa compagne, qui lui semblait maintenant laide et nue, elle lui demanda « Mais que leur direz-vous ? En bas, pour expliquer ?»
Madame Guy faisait des efforts pour ne pas se fâcher.
« Oh, je mettrai quelque autre chose. Je dirai que le fermoir s'est cassé. » Elle ajouta « Et vous, naturellement, ne mentionnerez pas mon nom à votre cousin, n'est-ce pas ?»«
Comme m'ayant détrompé ? Non. Je dirai qu'en examinant le collier de plus près, j'ai changé d'avis. »
« Sait-il à quel point vous vous y entendez peu ?»«
Aux pierres précieuses ?»«
Certainement. De plus, il a toujours eu la plus grande confiance dans son propre jugement. »«
Eh bien, alors il ne vous croira pas, puisqu'il redoute tant d'être persuadé. Il persistera dans son opinion, maintiendra son cadeau, et nous reverrons ses adorables perles. »
Avec cette assurance réconfortante, Madame Guy embrassa Charlotte en lui disant bonsoir. Elle ne devait cependant pas être promptement satisfaite, car quelle que fût la composition du collier, Charlotte n'osait pas risquer de l'envoyer à Londres par la poste. Aussi, Madame Guy eut-elle le désappointement de ne pas voir l'affaire décidée à la valeur avant la fin des réjouissances, comme elle semblait l'espérer. Du reste, ces réjouissances, montées à leur plus haut diapason, réclamèrent toute son attention, et ce ne fut qu'au dernier moment, dans le brouhaha du départ, que se précipitant sur Charlotte, elle lui dit vivement « Allons, qu'en demandez-vous ? Des perles ? Ah, c'est avec mon cousin qu'il faudra traiter. » Madame Guy, avec un vif empressement, se prêta à cette proposition. « Où demeure-t-il ? »
« Il a des chambres au temple. Vous pouvez aller le trouver. »
« À quoi cela sert-il si vous ne vous décidez ni à une chose ni à l'autre ?»«
Oh, je ferai l'autre, » dit Charlotte. « J'attends seulement d'être à Londres. » « En avez-vous donc une si folle envie ?»
Elle scruta de nouveau curieusement et solennellement le visage de Madame Guy. « J'en meurs d'envie. Elles ont un charme si particulier. Je ne sais en quoi elles consistent. Elles disent si bien leur histoire.
Qu'en savez-vous ?
Ce qu'elles m'en ont appris elles-mêmes.
Leur histoire est en elles et se répand au dehors. Elles respirent la tendresse. Elles en ont la blanche radiation.
« Ma chère, » murmura Madame Guy d'une voix sifflante, tout en boutonnant ses gants, « ce sont des présents d'amour. » La jeune fille laissa échapper une vague exclamation.
« D'amour passionné. »
« Miséricorde !» dit Charlotte, toute haletante, en se détournant brusquement. Mais les paroles de Madame Guy restèrent gravées dans sa mémoire. Elle répondait à son sentiment intime que désormais elle serait obligée de considérer sous un jour différent la chère défunte. Cette bonne et insignifiante personne, dont la carrière dramatique s'était si brusquement terminée. Ses perles étaient à elle seule toute une révélation. Madame Prime aurait pu le recevoir sans rien donner en retour. La jeune fille admettait cela, mais il devait y avoir une raison pour qu'elle les ait gardées si longtemps cachées et inutiles, ne pouvant en jouir qu'en secret. Elle les avait mêlées à des bijoux notoirement faux, pour dépister les curieux et éviter une découverte. La pauvre Charlotte passa des heures à rêver sur ce fait extraordinaire. Il devint plus attachant, plus émouvant qu'elle n'aurait pu l'avouer. La terne Miss Bradshaw avait dû être bien corrompue ou bien heureuse, suivant les raisonnements spécieux de Madame Guy et d'Arthur, pour avoir pu garder un silence aussi absolu. De temps à autre, quand elle était seule dans sa chambre,
Charlotte mettait le collier. Parfois aussi, elle le portait sous sa robe. Elle finit par éprouver pour lui une passion obsédante. Cependant, étant donné sa pauvreté, elle admettait l'idée de s'en séparer contre espèce. Elle rêvait même aussi à l'emploi qu'elle ferait de cet argent. Les sophismes par lesquels elle cherchait à se persuader qu'Arthur l'avait laissé libre de retirer un profit quelconque de son cadeau étaient bien innocents, car elle ne se faisait aucune illusion sur leur valeur. Puis, elle entrevoyait la possibilité qu'Arthur se montrât comme elle l'exprimait à la hauteur des circonstances. Était-il incapable d'un mouvement de générosité? Ne pourrait-il dire « Sans doute, si je l'avais su, je ne me serais pas senti dans ma position le droit de vous les donner. Mais maintenant que c'est chose faite et que vous avez été assez intelligente pour découvrir la vérité, je ne puis vraiment pas m'abaisser au point de vous les reprendre. » Elle eut à attendre plus longtemps qu'elle n'avait cru, car il s'écoula plusieurs mois avant qu'on eût pris la décision de transporter à Londres pour la saison la grande maisonnée de Blyth. Charlotte saisit au vol son premier moment de loisir pour aller, aussi bien mise que possible, frapper à la porte de son incrédule cousin et lui faire part de sa découverte. En écoutant son récit, Arthur prit un air sceptique et une expression très différente de celle qu'elle avait espérée. Elle crut le voir pâlir au moment où elle lui montra le collier. Il parut surtout désagréablement impressionné. Il y avait de quoi, elle le savait. Mais, au nom du ciel, devant un fait avéré, que pouvait-on faire? Elle avait posé les perles sur la table et Arthur, sans les toucher même du doigt, les fixa d'un regard dur et froid. Après un moment de silence, il dit simplement « Je ne crois pas qu'elle soit vraie. » « C'est justement ce que je désirais vous entendre dire, » répondit-elle avec quelque vivacité. À ces mots, elle crut le voir changer de couleur et plus tard, en repassant dans son esprit cette scène inoubliable, elle se rendit compte qu'elle l'avait fait rougir de colère. C'est une abominable accusation. Et il s'éloigna d'elle, comme il le faisait toujours au presbytère. « Je n'y suis pour rien, en tout cas, » dit Charlotte Prime. « Si vous avez peur qu'elle soit vraie. » Il se retourna brusquement. « Eh bien, ce n'est pas ma faute. » Arthur resta un moment muet, puis il se rapprocha de la table. « Ces perles sont, comme je l'ai dit dès l'abord, de l'ignoble Camelot. Alors je puis les garder ? Non. » « Je veux avoir une opinion plus compétente. »« Que la vôtre ?»« Non, que la vôtre. » Il jeta de nouveau sur les perles un regard singulier. Puis au bout d'un moment, il se décida à les toucher. Il les ramassa dans sa main comme Charlotte l'avait fait devant Madame Guy, et les déposant dans un tiroir, il tourna la clé. « Vous dites que j'ai peur, » reprit-il en se retrouvant devant elle, « mais je n'aurais pas peur de les porter au joaillier de Bond Street. » « Et s'ils disent qu'elles sont vraies ?» Il hésita, puis s'écria d'une voix étrange « Ils ne le diront pas, ils ne doivent pas le dire. » Sa manière d'être déconcerta Charlotte au point de lui ôter tout empire sur elle-même. Comme dans sa dernière entrevue avec Madame Guy, elle laissa échapper une simple exclamation « Oh !» et s'esquiva aussitôt sans ajouter un mot. Une quinzaine de jours plus tard, elle reçut une communication de son cousin. Et vers la fin de la saison, Madame Guy honora de sa présence une des fêtes d'Eaton Square. Charlotte n'assistait pas au dîner. Mais elle descendit pour la soirée, et Madame Guy, l'apercevant, abandonna un très beau jeune homme pour aller lui parler. L'invité portait un ravissant collier, et paraissait aussi satisfaite que jamais d'elle-même et de sa parure. « Vous voyez ? » s'écria-t-elle rayonnante. C'était en effet de splendides perles, autant du moins que la pauvre Charlotte se sentait capable d'en juger après ses récentes expériences sur ce mystérieux sujet. Elle eut un pâle sourire. « Ces perles sont presque aussi belles que celles d'Arthur. »« Presque. Mais, ma chère, où avez-vous les yeux? Ce sont les perles d'Arthur. » Et voyant un flot de sang monter au visage de sa jeune amie, elle ajouta « Je les ai suivies à la piste après votre acte de folie. » Et par une chance miraculeuse, je les ai reconnus dans la devanture d'un joaillier de Bond Street auquel votre cousin les avait cédés. « Cédés ? » s'écria la jeune fille suffoquée. « Il m'a écrit que j'avais insulté sa mère, que tous les experts confirmaient son avis et déclaraient que ce collier était de la plus pure Camelot. » Madame Guy la fixa du regard. « Ah, je vous avais bien dit qu'il ne pourrait le supporter. Non, mais il m'a fallu joliment marchander, je vous assure. » Charlotte entendait et voyait à peine. Elle ne songeait qu'au tort qu'on avait eu envers elle. Il m'a écrit qu'il les avait brisés. » Madame Guy ne put que s'étonner et plaindre. « Il faut qu'il soit malade. » On ne pouvait deviner lequel des deux cousins elle plaignait. Mais Charlotte se sentit malade aussi quand, après l'avoir quitté, elle s'abandonna à ses pensées. Elle alla même jusqu'à se demander à quelle espèce de marchandage Madame Guy s'était livrée et jusqu'à quel point on devait croire à la chance miraculeuse de Bond Street. N'avait-elle pas en vérité traité directement avec Arthur? Charlotte se rappela presque avec rage qu'elle avait eu son adresse. Ainsi s'achève Perle Fosse de Henry James.